Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Quatrième et dernier temps de notre série consacrée à la viande. Aujourd'hui, c'est sur l'avenir des relations entre l'homme et l'animal que nous allons nous pencher. Autrefois compagnon de labeur, l'animal semble être devenu, avec l'élevage intensif, une marchandise comme une autre, et cela en vertu d'une conception très hiérarchique des espèces. Une vision largement dénoncée par les militants de la cause animale qui appelle à transformer en profondeur nos représentations et les comportements qui les accompagnent. Dans le sillage des réflexions de Pythagore, pour qui se nourrir de la chair animale constituait un crime, ou de Plutarque qui défendait le refus de la viande, peut-on continuer à manger des animaux ? C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons parler des relations entre l'homme et l'animal en compagnie de Georges Chapoutier, directeur de recherche émérite au CNRS et auteur de « L'homme, l'animal et la machine, perpétuelle redéfinition » publié aux éditions du CNRS. En compagnie également de David Chauvet, juriste et auteur de « Une raison de lutter, l'avenir politique et philosophique de la viande » publié aux éditions « L'âge d'homme ». En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade. On voit que les pies et les perroquets peuvent proférer des paroles ainsi que nous, et toutefois ne peuvent parler ainsi que nous, c'est-à-dire en témoignant qu'ils pensent ce qu'ils disent, au lieu que les hommes qui, étant nés sourds et muets, sont privés des organes qui servent aux autres pour parler, autant ou plus que les bêtes, ont coutume d'inventer d'eux-mêmes quelques signes, par lesquels ils se font entendre à ceux qui, étant ordinairement avec eux, ont loisir d'apprendre leur langue. Et ceci ne témoigne pas seulement que les bêtes ont moins de raison que les hommes, mais qu'elles n'en ont point du tout. Car on voit qu'il n'en faut que fort peu pour savoir parler, et d'autant qu'on remarque de l'inégalité entre les animaux d'une même espèce aussi bien qu'entre les hommes, et que les uns sont plus aisés à dresser que les autres, il n'est pas croyable qu'un perroquet qui serait des plus parfaits de son espèce n'égalât en cela un enfant des plus stupides, ou du moins un enfant qui aurait le cerveau troublé, si leur âme n'était d'une nature du tout différente de la nôtre. Bonjour Georges Chapoutier et David Chauvet.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on vient d'entendre un extrait du discours de la méthode de Descartes, publié en 1637. Que nous dit ici Descartes, Georges Chapoutier ?
Bon, Descartes a une position qui est de séparer absolument l'homme des autres animaux, je serais tenté de dire. Alors, il dit une chose qui est juste au départ. Il dit « Le corps, c'est une machine qu'on peut analyser. » Bon, et ce faisant, ils font de la biologie, donc il y a une partie utile. Malheureusement, il ajoute, mais l'homme, lui, se sépare de sa nature strictement objet, parce qu'il a en plus une âme qui relève de Dieu. C'est le dualisme cartésien de l'âme et du corps. Et ce faisant, il fait une coupure absolue entre les hommes qui ont une âme, et donc une intelligence, et donc un langage, et les animaux qui, n'ayant pas tout cela, restent des machines qu'il assimile de façon maladroite aux automates de son temps, qui n'étaient pas très performants.
Pendant longtemps, Georges Chapoutier, les philosophes ne se sont intéressés à l'animal que pour démontrer, finalement, combien l'homme leur était supérieur.
Alors, ça dépend quel philosophe. Hein. Vous avez évoqué tout à l'heure Porphyre, Plutarque, on peut citer Montaigne, on peut citer pas mal de philosophes. Tous les philosophes ont dit ça, mais c'est vrai que la religion majoritaire, je suis tenté de dire, c'était la supériorité de l'homme par rapport à l'homme, et même à sa coupure, la séparation. C'était pas mis tout le monde. Hein. Je rappelle par exemple qu'au temps de Descartes, Madame de Sévigné a écrit des pages où elle dit, à propos des chiens, des machines qui sont jalouses, des machines qui craignent, allez, vous vous moquez de nous, jamais Descartes n'a prétendu nous faire croire.
Alors, vous distinguez, Georges Chapoutier, trois grandes conceptions de l'animal. L'animal humanisé, puis l'animal objet, et enfin, l'animal comme être sensible.
Oui, en deux mots, l'animal humanisé, c'est la position la plus répandue dans les civilisations. Pas la nôtre, mais dans le monde, dans les civilisations du Nouveau Monde, en Inde, etc. L'animal est une sorte de petit homme. Il a les prémices de l'homme. Il n'y a pas de séparation nette entre les hommes, les animaux, et éventuellement les dieux. La deuxième conception que vous évoquez, l'animal-objet, c'est celle de Descartes, qu'on a évoquée il y a une minute, qui a été caricaturée par son élève, Malebranche. C'est lui, Malebranche, qui... Chez Descartes, c'était très théorique, mais c'est lui, Malebranche, qui tapait sur des chiens, et quand la pauvre bête aboyait, disait « Regardez, c'est comme une horloge qui sonne l'heure ». Plutôt qu'une position post-cartésienne, la deuxième position, celle de l'animal-objet, devrait, à mon avis, plutôt être qualifiée de position Malebranchée. Et enfin, il y a la position moderne, qui est la position de l'animal être sensible, qui résulte d'un développement de la science, parce que, à force d'analyser le corps animal, on s'est aperçu qu'il ressemble exactement beaucoup au corps humain, et donc, que finalement, en ce qui concerne la sensibilité et les mécanismes qui la sous-tendent, chez les animaux céphalisés, la douleur, la souffrance, les animaux étaient comme nous.
Un mot sur cet animal humanisé, c'est comme ça qu'au Moyen-Âge, par exemple, il y avait des tribunaux qui jugeaient les animaux coupables d'avoir blessé ou tué un être humain, David Chauvet.
Tout à fait, tout à fait. Parlons d'animal sensible et d'animal conscient, parce que rappelons-nous aussi que la déclaration de Cambridge de 2012 a déclaré « les animaux sont conscients », ce qui est quand même... la marque, si vous voulez, d'une négation qu'il faut combattre. Parce que si c'était si évident que ça, il n'y aurait pas besoin de le déclarer.
Il faut nuancer, les animaux, certains animaux sont conscients.
Oui, en tout cas, la conscience était jusqu'à présent réservée à l'humain, propre de l'homme.
Les animaux fortement céphalisés, disons en gros les vertébrés, les pieuvres, les muscles, sont conscients.
Voilà. Un certain nombre d'animaux donc que jusqu'à présent on refusait de voir comme des êtres conscients. Alors pour la question des procès d'animaux, effectivement, on a depuis au Moyen Âge considéré quasiment les animaux comme des sujets de droit puisqu'on leur faisait des procès. Alors il y a certains procès étaient faits pour des raisons de ce qu'on appelle aujourd'hui zoophilie, qui était à l'époque appelée bestialité. Il y avait aussi des procès parce que certains animaux ont tué des humains, par exemple des cochons qui vivaient dans l'environnement humain pouvaient manger des enfants. Et aussi beaucoup parce que des animaux sous forme de nuées, hein, par exemple des nuées d'insectes ou alors vous voyez des groupes de rats dévastaient les récoltes, et l'excommunication via le tribunal ecclésiastique semblait le meilleur moyen pour s'en débarrasser, étant donné quand même le grave péril que ça faisait courir sur la santé humaine et sur l'alimentation.
Georges Chapoutier. À propos de ce problème des rats, qu'au temps de Louis XII, l'évêque d'Autun avait assigné les rats au tribunal pour les excommunier parce qu'ils transmettaient la peste. Et donc il a perdu son procès, et on le sait grâce à l'avocat des rats qui s'appelait Barthélemy Chassanet, qui a écrit tout un livre pour montrer comment, à l'aide d'arguments très sérieux, il avait obtenu la relaxe de ses petits clients.
Alors depuis Descartes et donc de ses successeurs comme Malebranche, on l'a dit, c'est peut-être cette conception de l'animal objet qui est la plus répandue, et c'est ce que l'on constate par rapport avec le développement de l'élevage intensif, ce qui pose un certain nombre de conséquences.
Oui, la conception, alors bien sûr sur un plan rationnel, scientifique, c'est l'animal être sensible qui est maintenant la conception la plus sérieuse, la mieux étayée, mais il reste que dans la pratique, l'animal cartésien, l'animal objet est encore, et pour des raisons économiques en particulier, est extrêmement répandu. Dans un élevage industriel, l'animal c'est une marchandise dont on se moque complètement de la sensibilité ou d'autres choses similaires.
Cette vision, cette conception de l'animal objet, David Chauvet, c'est ce qui explique qu'il ait fallu attendre 2015 en France pour que les animaux acquièrent le statut juridique d'être sensible dans le code civil.
Oui, peut-être. Disons que le statut d'être sensible est reconnu dans le droit depuis bien plus longtemps que 2015. Hein. Dans les années 70, déjà, on reconnaissait que l'animal était on le reconnaît dans le droit, hein, dans le droit pénal, implicitement. On le reconnaît dans les traités européens. Et c'est simplement une mise à niveau du code civil par rapport à l'ensemble du droit. Alors c'est une mise à niveau très importante parce que le code civil a un rôle... un rayonnement très fort dans le droit, si vous voulez, dans nos droits de tradition civiliste. C'est le code civil qui a une importance vraiment prépondérante, au point même qu'il peut influencer un juge pénal. Si vous voulez, le fait de reconnaître qu'un animal est un être sensible dans le code civil peut faire que l'application du droit pénal va être plus importante, tout simplement.
On va voir comment ces droits peuvent être étendus. Mais d'abord un mot, Georges Chapoutier.
Deux remarques là-dessus. Être sensible, il faut bien dire que c'est une sensibilité nerveuse qui peut amener chez les animaux céphalisés à la douleur et à la souffrance. J'ai coutume de dire qu'une plante ou une pellicule photo sont aussi des êtres sensibles à la lumière. Donc il ne s'agit pas de ça. Et le deuxième point, c'est que le code civil, et ça c'est très bien, a entériné cette conception générale que l'animal est un être sensible, mais malheureusement avec beaucoup de dérogations.
Alors, en quoi, Georges Chapoutier, les découvertes scientifiques ont-elles joué un rôle dans cette reconnaissance de l'animal comme un être sensible, justement ?
Alors, de plus en plus, au fur et à mesure qu'on analyse le comportement des animaux, notamment des animaux céphalisés comme les vertébrés et les pieuvres, on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on avait pensé, et qu'ils ont non seulement une sensibilité à la douleur qu'on va trouver chez tous les animaux, ou presque tous les animaux, mais pas nécessairement consciemment, mais qu'ils ont aussi une conscience qui ressemble beaucoup à la nôtre. Et donc, on peut le dire, il y a des cas intermédiaires, hein, la question de l'abeille, des crustacés est encore en discuté, mais chez les mollusques céphalopodes comme la pieuvre, et surtout chez tous les vertébrés, depuis les poissons jusqu'aux mammifères, aux oiseaux, il y a une conscience qui ressemble beaucoup à la nôtre.
Il y a des découvertes aussi en termes d'ADN, on se rend compte qu'on a parfois 55% de gènes en commun avec des animaux dont on pensait qu'ils étaient très éloignés de nous.
C'est tout à fait juste. Par exemple, on a 98% de gènes communs avec les chimpanzés qui nous ressemblent beaucoup. Mais là, je vous arrête sur un point, c'est pas parce que les différences sont plus fortes en gènes qu'on doit donner davantage de droits. Par exemple, les dauphins ou les éléphants ont moins de gènes communs avec nous parce qu'ils nous ressemblent moins, mais ils peuvent très bien être tout aussi intelligents et avoir un ressenti de leur douleur et de la souffrance identique à celui des chimpanzés.
Alors pour revenir aux relations avec les animaux, et ce qui nous mènera à revenir véritablement à la viande, il faut peut-être dire, Georges Chapoutier, que les relations avec les animaux ont été profondément transformées avec la domestication de certaines espèces par l'homme, domestication qu'il ne faut pas confondre avec l'apprivoisement.
Alors oui, il y a toutes sortes de façons. La domestication, c'est un animal qui vit dans l'ambiance de l'homme depuis des centaines, voire des milliers d'années. Les meilleurs exemples, c'est le chat et le chien. Surtout le chien, dont la domestication est plus ancienne. On peut effectivement apprivoiser un animal de façon individuelle. Par exemple, un animal qui est sauvage, vous le récupérez dans la jungle quand il est petit, parce qu'il a perdu sa mère, tué par des braconniers ou autres. Et à ce moment-là, on peut l'apprivoiser. Mais ça sera un animal individuel, si j'ose dire. Tandis que le chat et le chien, ce sont des espèces entières qui vivent et qui se sont adaptées à l'homme.
Et vous dites que la domestication a instauré dans la plupart des civilisations un rapport utilitaire aux animaux, mais aussi une certaine empathie à leur égard.
Bien sûr, on a même dans les cas pires où l'animal est maltraité dans sa civilisation, il y a toujours une sympathie entre l'homme et ses animaux domestiques, heureusement d'ailleurs.
Et alors, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une idéalisation du rapport à l'animal dans l'élevage extensif par comparaison avec le traitement des animaux qui caractérise l'élevage industriel? Est-ce qu'on n'a pas tendance à revoir un petit peu l'histoire avec notre regard d'aujourd'hui?
C'est-à-dire que l'élevage intensif est quelque chose qui paraît monstrueux pour quiconque a un tant soit peu de connaissances sur les animaux, comme l'a dit très bien Georges Chapoutier à l'instant. Les animaux sont reconnus comme des êtres sensibles par le droit européen, national, et on leur fait effectivement dans la pratique subir l'inverse de ce que leurs conditions d'être sensibles devraient appliquer. C'est-à-dire on les fait souffrir puisqu'ils sont dans des élevages intensifs par définition où ils souffrent. Et puis nous avons tous vu les images d'L214 dans les abattoirs. Qui révèle non seulement une cruauté gratuite, puisque quand même on a vu un certain nombre d'employés se comporter de manière violente gratuitement contre les animaux. Je pense notamment à cet employé qui s'était mis à crever l'œil d'un animal comme ça, après avoir jeté un œil furtif autour pour voir si quelqu'un regardait. Et puis on a aussi la violence dans les abattoirs qui est due aux cadences, au fait que les animaux sont tués massivement dans notre pays, parce que il faut savoir qu'il y a 3 millions d'animaux qui sont tués tous les jours en France. Donc vous pouvez bien imaginer qu'avec 3 millions d'animaux tués tous les jours en France, on ne va pas avoir le temps forcément de les cajoler dans les élevages ou dans les abattoirs.
Trois remarques quand même. Il y a un point qu'on pourrait déjà améliorer, ça serait de mettre des caméras dans les abattoirs. Il semble que ce soit possible en Grande-Bretagne, mais pas chez nous. Donc ça pose un problème de fond politique, celui-là.
On l'évoquait hier en grande partie dans notre émission sur les abattoirs. Et je vous laisse
deuxième point, c'est que outre l'élevage, qui est abominable, il faut le dire carrément, j'insiste, c'est abominable. Outre l'abattage, qui est souvent abominable aussi, il y a le transport des animaux. Il y a des animaux qui voyagent, des jeunes veaux de 15 jours qui voyagent 24 heures sans manger ni boire. Enfin, tout ça est abominable. Et j'ai horreur de la corrida pour différentes raisons, mais donc la corrida c'est un massacre gratuit si j'ose dire, mais c'est une goutte d'eau comparativement à l'élevage en batterie, qui est au point de vue nombre, c'est là que se situe le gros problème moral.
Alors vous citiez l'association L214, David Chauvet, qui diffuse depuis plusieurs années des vidéos chocs sur le traitement des animaux dans les abattoirs, et la fiction a pris le relais, comme on peut l'entendre dans cet extrait du film Okja du réalisateur Jun Ho-bong. Dans l'extrait qu'on va entendre, Jay, le chef d'une association activiste de protection des animaux, explique qu'Okja, le cochon géant, a en réalité été créé par la société Mirando.
Tout ce que tu penses savoir à propos d'Okja est un mensonge. Okja a été créé dans ce laboratoire, comme celle qu'on appelle sa mère. C'est le bâtiment où Mirando fait des expérimentations sur les animaux génétiquement modifiés. Puisque la mutation génétique est très dangereuse, Mirando nous a fait croire que c'était tout à fait naturel et sans OGM. Mais tout ça, c'est de l'arnaque. Des millions de cochons OGM font la queue devant des abattoirs à l'heure qu'il est. Toi et tous les éleveurs locaux aident des outils promotionnels qui donnent un côté pittoresque à ces pratiques inqualifiables. Mirando sait très bien que ses consommateurs n'apprécieraient pas l'idée de consommer de la nourriture mutante. Alors, il y a 10 ans, la boss Lucie Mirando est entrée dans le laboratoire et elle a cherché, parmi toutes ces créatures modifiées, les 26 cochons les plus beaux qu'elle trouvait. Comme Okja. Et elle les a envoyés dans le monde entier, à grand renfort de fanfare.
Après sa sortie en 2017, les recherches Google du mot « vegan » ont augmenté de 65%, rapportent les Inroc, et les réalisateurs ont reçu des témoignages de personnes devenues végétariennes ou véganes après avoir vu le film. Est-ce que cela veut dire que la fiction est finalement plus efficace que les documentaires ou les vidéos choquantes pour changer les mentalités, David Chauvet ?
Je sais pas, ça c'est vraiment une question un petit peu piège, faudrait faire une étude là-dessus. Disons que les deux sont utiles sans doute. À mon avis, si des gens sont devenus véganes, végétariens et surtout flexitariens, parce que je pense que l'essentiel de la diminution de la consommation de viande vient quand même des flexitariens.
Les flexitariens qui mangent plus rarement de la viande.
Voilà. Je pense que ces évolutions sont quand même plutôt imputables aux vidéos d'L214, c'est-à-dire à ces images atroces qu'on a pu tous voir et qui sont encore dans les esprits d'ailleurs. Ces images d'abattoirs ou d'élevage.
Oui, j'ai un peu le travail de L214 qui est absolument remarquable. Il y a aussi le fait sans doute qu'il y a des questions diététiques. Il y a des gens qui sont de plus en plus conscients que l'excès de viande rouge, c'est pas bon. Pour des tas de raisons, ça contribue aux maladies cardiovasculaires. Pour les gens qui sont sensibles, ça augmente le risque de cancer du côlon, des choses comme ça. Ajoutons le fait aussi que, sur le plan diététique, strictement diététique, que la viande est en bout de chaîne, et donc les pesticides, ils sont plus accumulés que dans une alimentation végétarienne, par exemple.
Alors, parmi les arguments en faveur d'une disparition de l'élevage, il y a bien sûr la souffrance animale et il y a également l'impact sur l'environnement. Un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que l'élevage est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre, soit plus que les transports, même si l'INRA estime qu'il faut prendre ces chiffres avec précaution, puisqu'on prend en compte tout le cycle de vie de l'élevage, alors qu'on ne comptabilise que les émissions de gaz à effet de serre des transports. Mais sur cet impact sur l'environnement, Georges Chapoutier.
Et tout le monde est d'accord là-dessus. Je pense que ce n'est pas contesté.
Sur l'impact, ça n'est pas contesté. Alors, sur les chiffres,
le pourcentage, je ne m'aventurerai pas sur le pourcentage. Mais que l'élevage industriel, en masse, disons, et une conséquence négative par la production de méthane et des choses comme ça, je pense que ce n'est pas contesté.
La question environnementale, dans un contexte global d'augmentation de la population mondiale et de la consommation de viande, oblige en tout cas à repenser ces relations entre l'homme et l'animal, et ça d'autant plus que 80% de la croissance du secteur de l'élevage est le fait des systèmes industriels, David Chauvet.
Oui, mais pour revenir sur la question de la viande, vous quand même, on parle en ce moment de l'actualité, c'est sur ce qu'on dit, la taxation sur le carburant, les gilets jaunes et ce genre de choses. Vous avez remarqué quand même qu'on demande aux gens d'arrêter de conduire leur voiture dont ils ne peuvent pas se passer. Par contre, le fait d'arrêter de manger de la viande, par exemple en taxant la viande...
Ce que vous proposez dans une tribune récente dans Libération.
Ça, on n'entend pas parler. C'est quand même quelque chose d'assez extravagant parce que vous avez donné le chiffre de 18%. Il y a d'autres chiffres du même organisme de 14,5%. Mais où il y en a même qui montent à 51. Bon, c'est des chiffres qui varient, mais en tout cas, tous les chiffres convergent pour dire que la viande est au moins autant un facteur de réchauffement climatique que les transports, ou un peu plus. Comment se fait-il qu'il y ait un tel tabou sur la consommation de viande ? Aucune politique fiscale de dissuasion, on en parle en passant. Il y a un tabou, manifestement. On parle que de voitures, on ne parle pas de viande. Monsieur Macron a sans doute certaines intentions écologiques ou budgétaires, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faudrait quand même se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait contre la consommation de viande. Est-ce que la planète ou la civilisation humaine doit s'effondrer parce que les gens ont envie de manger de la viande ? C'est ça la question qu'il faut poser maintenant.
Bien sûr, je ne suis pas aussi... dynamique que David Chauvet. Je pense que déjà, si on arrivait à réduire la consommation, il y aurait un grand progrès. Alors, c'est vrai qu'il y a un manque, une inertie, un manque total de volonté politique là-dedans. Toutefois, au niveau local, maintenant, on commence à parler de cantines qui n'auraient une alimentation végétarienne une fois par semaine ou deux fois par semaine. Donc, il y a un mouvement qui est lancé. Je suis entièrement d'accord avec David Chauvet. La volonté politique est totalement insuffisante.
Pour bien comprendre les conséquences environnementales de l'élevage industriel, il faut comprendre que ce sont les terres qui l'occupent, ce qui pose problème, à la fois pour le bétail et pour la production fourragère, et aussi, évidemment, tout ce que la production animal demande en eau. On parle de 8% des utilisations de l'eau à l'échelle mondiale, Georges Chapoutier.
Oui, tout à fait. Il faut insister sur l'échelle mondiale. Pour nourrir notre bétail des pays riches, pour nous pour avoir de la viande, nous importons des protéines végétales du tiers-monde. Le tourteau de soja, etc., etc., dont les paysans de ces pays auraient beaucoup plus besoin que nous. La viande a un coût énergétique qui est absolument considérable.
Alors, ces préoccupations environnementales et le souci croissant pour le bien-être animal expliquent en partie, on l'a dit, cette diminution de la consommation de viande. Mais alors, est-ce que ce sont les seules explications? On a commencé à en apporter d'autres. Vous avez parlé des recommandations des médecins, Georges Chapoutier. Et il y a aussi le fait que les prix ont augmenté, notamment à cause de la hausse des prix des matières premières. On observe quand même un phénomène assez global de diminution de cette consommation.
Il y a une diminution de la viande qui n'est pas énorme, hein, elle est de quelques pourcents.
Hein. 12% selon le Crédoc.
C'est pas énorme, elle est probablement attribuée plus aux flexitariens qu'aux végétariens, pour des raisons de nombre, hein, tout simplement. Oui. Et donc, je crois que c'est cette évolution-là qu'il faut encourager. Donc, il y a une baisse. Donc, on va dans le bon sens. C'est comme beaucoup de choses. Mais enfin, c'est très timide et très lent.
Le flexitarianisme dont on a commencé à parler, c'est un phénomène qui a émergé il y a assez peu, David Chauvet.
Oui, enfin, on a toujours parlé de manger moins de viande. En fait, le flexitarisme, ça veut dire simplement manger moins de viande. Mais là, c'est vrai qu'on a un peu un accroissement du phénomène du fait des questions de bien-être animal et du fait aussi du prix sans doute de la viande, de la perte de pouvoir d'achat finalement, hein. La consommation de viande reste massive puisque vous avez donné vous-même les chiffres de l'impact climatique sont de 18, 14, 5 ou plus %. Voilà, donc ce sont des évolutions totalement insuffisantes par rapport à l'urgence climatique. Et si on nous parle de voitures, c'est très bien, mais j'ai envie de dire, si on devait choisir entre les deux taxes, la taxe sur le carburant et la taxe sur la viande, c'est la taxe sur la viande qu'il faut choisir, puisque c'est de ça dont les gens peuvent se passer immédiatement, alors que leur voiture, ils ne peuvent pas s'en passer.
Et alors, si les choses ne bougent pas, selon vous, c'est à cause de quoi? Du poids économique de l'industrie de la viande, du poids des lobbies?
Je crois que c'est un mélange du poids des lobbies, du poids économique, et simplement du poids qu'a la viande dans nos consommations individuelles. C'est-à-dire que les gens... Dire aux gens vous allez changer votre régime alimentaire, ça paraît complètement fou parce que c'est un tabou, simplement. Voilà, c'est la viande est sacralisée dans nos sociétés. Vous pouvez pas dire aux gens maintenant vous allez devenir vegan, on va vous mettre une taxe sur la viande pour devenir vegan. Voilà le problème. Ça risque de provoquer ce qu'on sait sur le climat, c'est-à-dire à terme, éventuellement, hein, parce que selon les pires projections, tout simplement un effondrement de l'humanité. On est en train de jouer la question de la survie de la civilisation humaine sur la consommation de viande.
La viande a pris une place trop importante, Georges Chapoutier, dans notre alimentation.
David Chauvet a raison de le dire. Outre les pesanteurs politiques, etc., etc., il y a un poids des habitudes. C'est très difficile de faire changer les habitudes des gens. C'est pour ça que je pense qu'on arrivera mieux si on commence à comprendre aux enfants dans les cantines que deux jours par semaine, ça serait bien, etc., même sur le plan diététique, etc. Je prends un autre exemple qui n'a rien avec la viande. Regardez le tabac, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vous disent que le tabac fait favorable actuellement. Hein. Mais malgré cela, vous ne pouvez pas changer les habitudes. C'est très difficile de faire changer les habitudes.
C'est d'autant plus difficile que dans les années 60, il y avait des politiques qui favorisaient cette consommation de la viande.
Et elles existent encore dans nos pays. Par exemple, je connais bien certains pays du tiers-monde. Dans le tiers-monde, on n'a pas la même réflexion chez nous. La viande, c'est la nourriture du riche. Voilà.
David Chauvet.
Quand même, faut remettre les choses aussi à leur place. Là, actuellement, on n'a pas une politique de dissuasion de la consommation de viande, mais une politique d'incitation de la consommation de viande. Je rappelle quand même qu'il y a un décret cantine qui a été pris en 2010, qui consiste à quasiment obliger dans les cantines à ce qu'on mange des produits animaux. Vous voyez, donc, et ça, c'est directement imputable au lobby de la viande sous le gouvernement Sarkozy. Donc, on a une véritable politique d'incitation à la consommation de viande qui est totalement inverse aux objectifs climatiques.
The sun. steps is easy, standing still is hard. Remember all their faces, remember all their voices. Everything is different the second time around.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
C'était You've Got Time de Regina Spektor et nous sommes toujours avec David Chauvet et Georges Chapoutier et nous parlons de l'avenir des relations entre l'homme et l'animal. Alors face aux problèmes environnementaux et éthiques que pose la production industrielle de viande, des alternatives commencent à apparaître et notamment la viande de synthèse. En 2013 à Londres a eu lieu la première dégustation publique d'une viande in vitro cultivée en laboratoire. Est-ce qu'il s'agit selon vous d'une découverte prometteuse, David Chauvet ?
Tout ce qui peut permettre de se débarrasser de la viande d'animal, puisque maintenant, précisons-le, la viande est déconceptualisée. C'est-à-dire que l'intime relation entre le produit, la viande et l'animal, maintenant c'est fini. Puisque maintenant, avec la viande in vitro, on va avoir de la viande sans animal. Alors certes, de la viande extraite au départ de cellules animales, mais il n'y aura plus d'animal tué, il n'y a plus d'abattoir, il n'y a plus d'élevage. Donc, on va peut-être pouvoir offrir une alternative aux gens qui serait éventuellement quelque chose qui pourrait nous permettre d'éviter la catastrophe climatique. S'il est confirmé que la viande in vitro est beaucoup moins polluante que la viande d'animal, et effectivement certaines études le disent, hein, certaines études disent que le fait de consommer de la viande in vitro pourrait réduire largement l'impact sur le réchauffement climatique.
La fabrication de viande in vitro, si elle se généralisait, est-ce qu'elle ne pourrait pas poser un certain nombre de nouvelles questions philosophiques, Georges Chapoutier, sur notre rapport à la nature et au vivant ? Il y aurait une vraie rupture entre la viande et l'animal dont elle provient.
Oui, ceci dit, ça pourrait être des questions philosophiques, mais enfin, pas dramatique en soi, si vous voulez. J'ai envie de dire que le consommateur s'appelle tolérera très bien que les protéines qu'il va consommer, dans la mesure où il aura à peu près le même goût que ce qu'il aurait eu dans la viande.
Ça reste encore à prouver.
Alors, il y a ça. On n'est pas tout à fait sur le goût, mais la recherche se poursuit. Effectivement, dans la viande tirée d'un animal, il y a des nerfs, de la graisse, etc. Dans le test qui a été fait là, de gastronomes qui ont testé ce hamburger de viande synthétique, effectivement, ils ont trouvé que ça n'avait pas exactement le même goût. Mais ça, c'est des problèmes qu'on arrivera à dominer.
Il a été assaisonné avec beaucoup d'ingrédients pour essayer de se rapprocher du goût de la viande, et malgré tout,
oui,
effectivement,
tout
il était encore assez
éloigné. Dans les viandes qui sont consommées aussi, il y a des viandes qui n'ont pas toujours très bon goût non plus.
David Chauvet.
Il y a aussi une question importante qui va se poser avec la viande de culture. Vous parliez de l'aspect philosophique, parce qu'effectivement, là, je vous parlais du divorce conceptuel entre l'animal et la viande. Quand vous aurez sur le marché de la viande in vitro et de la viande d'animal, ceux qui se tourneront vers la viande d'animal pourquoi le font-ils ? Il faudra bien qu'ils aient une raison particulière d'aller vers la viande d'animal. Et on peut se poser la question de savoir si ce ne serait pas la volonté de continuer à marquer une domination sur les animaux, une volonté finalement de mettre en scène cette domination en tuant des animaux pour la viande. Alors, la question va se poser, vraiment, très concrètement, très pratiquement, est-ce que vous voulez tuer des animaux quand vous mangez de la viande ou est-ce que vous voulez simplement manger de la viande parce que c'est bon ou est-ce que votre but, c'est de tuer des animaux ?
Alors justement, Jocelyne Porcher, par exemple, estime que la viande in vitro nous dépossède de notre relation à l'animal et pour elle, elle entraîne un risque d'une mainmise encore plus fort des intérêts du technocapitalisme sur notre alimentation. Je parle de la chercheuse Aline Ra, Jocelyne Porcher.
Il y aura 36 autres manières d'améliorer notre relation à l'animal. Hein. Je veux dire que les animaux domestiques, les relations, enfin, il y a 36 façons, si on le veut bien, d'améliorer notre relation à l'animal que cette façon-là, ceci dit. Maintenant, ceci dit, il est clair, Porcher a raison que l'élevage artisanal est beaucoup moins pernicieux actuellement que l'élevage industriel. Maintenant, on quitte un peu notre problème de la viande artificielle, si j'ose dire. Et il y a quand même deux objections qu'on peut formuler sur cette viande, si vous voulez. D'abord, c'est son coût. Ça va peut-être baisser.
Ce que j'allais vous dire, pour l'instant, le prix est complètement prohibitif. 250 000 euros, le premier steak produit en 2013.
Ça va baisser, mais c'est encore très prohibitif. Il faudra du temps avant que ça atteigne des prix comparables à la viande d'animaux abattus. Et puis alors, il y a un deuxième problème qui est technique celui-là. Pour faire pousser ces cellules de muscles, pour faire une viande synthétique, qu'on peut améliorer avec des graisses, enfin, moi, je passe sur les détails, mais il faut quand même une sauce qui comprend des hormones, des promoteurs, des choses comme ça. Dans l'état actuel des choses, elle est tirée d'animaux, cette sauce. Alors, on arrivera peut-être à la transformer avec une autre sauce, mais pour l'instant, il y a quand même un problème technique de base.
David Chauvet.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est le sérum fœtal bovin, évidemment. Éthiquement, si vous passez de viande pour mettre à la place un produit tiré des animaux, bon, ça n'a pas un intérêt... Encore faudrait
Si votre souhait est de cesser de tuer des animaux.
Il faudrait voir si on tuerait moins d'animaux ou pas. Mais bon, globalement, il faut s'en passer. Et il faut savoir que toutes les firmes font... vraiment une recherche très importante pour se passer du sérum fœtal bovin, non seulement pour des raisons éthiques affichées, mais aussi pour des raisons économiques, parce que c'est pas rentable. Donc de toute façon, il est clair que quand la viande in vitro, normalement, hein, sera sur le marché, on peut s'attendre à ce que cette question soit réglée.
C'est en tout cas une réalité qui avance, puisque la semaine dernière, l'administration américaine a dévoilé un cadre réglementaire qui ouvre la voie à la commercialisation d'aliments donc conçus à partir de cellules souches, et puis il y a un certain nombre de sociétés qui se sont déjà positionnées sur ce créneau, les financements affluent. On peut citer par exemple la société américaine Just qui veut commercialiser un produit à base de cellules de viande d'ici à la fin de l'année. Et il y a aussi une start-up de San Francisco, Memphis Meats, qui elle annonce que ses boulettes de viande artificielles seraient compétitives dès 2021. Donc on voit que c'est une question qui approche très fortement, David Chauvet.
Oui, au grand désespoir donc de Jocelyne Porcher et consorts, mais moi j'aurais envie de dire quelque chose à Jocelyne Porcher. Je pense que sa position est contradictoire, elle est intenable, parce que Jocelyne Porcher veut favoriser l'élevage traditionnel, parce qu'elle pense que, effectivement, comme une welfaris, et je partage cette préoccupation, il faut que les animaux ne souffrent pas, il faut qu'ils soient bien traités.
Welfaris, donc en faveur du bien-être animal.
C'est cela. Mais comment Jocelyne Porcher peut-elle espérer, ne serait-ce qu'un instant, si elle est honnête, que avec 3 millions d'animaux tués par jour, on puisse avoir ce genre d'élevage. Donc Jocelyne Porcher ne peut qu'être pour la viande in vitro, qu'être pour les véganes le plus massivement possible, qu'il y ait le plus possible de véganes, de végétariens et de flexitariens et de viande in vitro dans notre pays. Sinon, elle ment ou elle ne comprend pas la réalité des choses. On a 3 millions d'animaux tués tous les jours en France, donc de toute façon, que ça lui plaise ou pas, il faut... réduire massivement la consommation de viande pour que effectivement les élevages qui pourraient subsister soient des élevages tels qu'elle les imagine, des élevages donc on dit respectueux des animaux, en admettant qu'on puisse parler de respect quand on arrache la vie d'un être qui aurait pu continuer de vivre.
Elle parle notamment d'une relation de travail avec les animaux. Georges Chapoutier.
Je voudrais aborder un autre sujet qui est lié à celui-là. Quand on parle de la viande, il ne faut pas oublier qu'il y a un sous-produit de la viande, c'est le lait. Et donc, si on a celui qu'on fasse de la viande synthétique, on arrive, bon, faisant une fleur de style, que nous tous adaptés à de la viande artificielle, où va-t-on trouver notre lait? Ça suppose aussi un lait artificiel. Parce que, dans l'état actuel des choses, sauf si on est un fermier qui élève ses animaux de façon à l'ancienne, mais il y a très peu, comme le fait remarquer David Chauvet, la production massive de lait, ça suppose l'abattage de veaux, etc., etc. Donc, faut pas oublier que le lait est aussi un sous-produit de la viande.
Alors le second problème qui est posé par cette viande de synthèse, c'est l'impact environnemental, on commençait à le dire. Selon Jean-François Hoquet, chercheur à l'INRA, cet impact est bien plus important qu'on ne veut bien le dire.
Il faudrait moins d'énergie pour produire de la viande artificielle que pour produire de la viande bovine ou de poulet ou de porc. Mais en 2015, des publications plus récentes ont montré que c'était exactement l'inverse. Il faut davantage d'énergie pour produire de la viande artificielle car il faut chauffer les incubateurs géants dans lesquels il y a des cellules en culture, il faut les chauffer à 37 degrés, parce que les cellules ont besoin d'être à 37 degrés. Il y a aussi un certain nombre de vérités qui sont occultées concernant la viande artificielle. Cette viande est produite à partir d'un très grand nombre de cellules qui se multiplient un très très grand nombre de fois. Et sur le lot, il y a toujours quelques cellules dont le fonctionnement se dérègle. Elles se transforment, si vous voulez, en cellules cancéreuses. Vous, consommateurs, est-ce que vous voudriez manger des cellules cancéreuses ? Aucun risque. Elles vont être détruites par l'acidité gastrique. De quoi est fait le milieu de culture ? Dans le milieu de culture, les cellules ont besoin de sérum de veau fœtal qui apporte de nombreux nutriments. Les chercheurs travaillent pour remplacer ce sérum de veau fœtal par un milieu de culture synthétique. Dans ce milieu de culture, il faut rajouter des hormones synthétiques, insuline, dexaméthasone, glucocorticoïdes, etc. Et toutes ces hormones devront être produites par l'industrie chimique. Par ailleurs, les cellules se multiplient à 37 degrés, mais les champignons et les bactéries se multiplient aussi à 37 degrés. Il faut donc rajouter des antibiotiques en très grand nombre et des fongicides en très grand nombre.
Un mot, Georges Chapoutier, sur les conséquences environnementales de la fabrication. Oui, donc,
les objections qui sont faites ici par notre collègue Hoquet sont légitimes. C'est comme tout ce qui se passe quand on commence un projet. Dans toute activité de l'homme, au départ, il y avait toutes sortes d'objections qui faisaient que ça ne pouvait pas marcher parce que tout ça va s'améliorer. Tout ça, les questions énergétiques, je pense que petit à petit, alors je suis moins optimiste que David Chauzet. Je pense pas que ça se fasse dans un délai de quelques dizaines d'années. Je pense que ça prendra du temps. Mais tout ça, tous ces problèmes, disons, techniques, l'homme les résoudra.
Finalement, les seuls avantages indiscutables, en tout cas, de cette viande de synthèse, c'est de libérer des terres cultivables et d'éviter de tuer des animaux d'élevage.
Oui, mais tout peut être discuté. Il y a toujours une étude qui va aller dans le sens de quelqu'un qui milite contre la viande in vitro pour la viande d'élevage comme Monsieur Hoquet. La question, c'est de savoir, vous savez, c'est comme le réchauffement climatique, hein, on a eu toutes sortes d'études dans un sens ou dans l'autre. Moi, je dis simplement qu'une réalité, c'est que la viande détruit la planète. Alors, est-ce que Monsieur Hoquet nous propose d'être tous véganes ? Ou est-ce qu'il nous propose de réduire la consommation de viande en passant, par exemple, par la viande de culture ?
On peut se poser la question du problème que pose de remplacer une solution polluante par une autre solution polluante.
Bien sûr, mais encore une fois, il y a des études aussi. Il est bon aussi de mentionner les études qui disent que la viande de culture sera nettement moins polluante.
Il faut aussi ajouter qu'il y a d'autres moyens de remplacer la viande actuelle. Il y a des protéines végétales qu'on consomme beaucoup aussi.
J'allais y venir. Oui. Quelles sont les autres solutions qui s'offrent à nous? Comment est-ce qu'on peut nourrir l'humanité tout en respectant l'environnement et les animaux? Alors, vous parlez des produits végétaux qui imitent de plus en plus la texture et le goût de la viande.
Il y en a de plus en plus. Il y a ça. Il y a une question qui pose que je ne vais pas résoudre ici. La question, c'est faut-il passer d'animaux conscients et souffrant comme les vaches, à des animaux peu conscients, comme certains insectes. Donc là je réponds pas à cette question. Mais on peut se la poser aussi. Vous savez qu'il y a des projets de consommation d'insectes. Donc, disons que, outre les viandes synthétiques, il y a d'autres projets possibles. Dont le premier est l'absence du gaspillage, donc la réduction du gaspillage, qui améliorerait beaucoup de choses aussi.
Sur ces produits végétaux qui prennent de l'ampleur, mais dont on a encore un peu de mal à imaginer qu'ils pourraient véritablement se substituer massivement à la viande, David Chauvet.
Bah oui, mais c'est toujours le même problème. Vous avez effectivement une offre qui est faite. D'ailleurs, maintenant, vous savez, sur les produits, les steaks végétariens, on va arriver à des choses qui sont quasiment identiques à la viande, avec même l'imitation du bruit que fait la cuisson d'un steak. Et ce qu'on appelle des steaks saignants, enfin, mais végétaux, hein, avec du faux sang, si je puis dire. Eh ben, d'accord, très bien, c'est sur le marché. Est-ce que pour autant les gens vont se ruer dessus ? Non, ils ne le feront pas. Ce sont des politiques publiques, des orientations. Et c'est là qu'il y a un défaut, comme le disait très bien Georges Chapoutier tout à l'heure. Il n'y a pas de volonté politique, donc... Voilà, c'est comme si il y a des voitures électriques sur le marché, les gens vont pas se ruer sur les voitures électriques si vous faites pas une incitation fiscale.
L'incitation politique et aussi probablement l'éducation, je pense que
les deux, oui.
Les jeunes, quelqu'un qui est formé, quand quelqu'un qui a 50 ans qui est habitué à manger ses steaks, il aura beaucoup de mal à changer. Tandis qu'un enfant peut s'habituer beaucoup mieux.
Alors face à cette question de la souffrance animale pour les associations antispécistes, il faut abolir toute forme d'élevage. Comment cette conception dite abolitionniste que vous partagez, David Chauvet, a-t-elle émergé ?
Comme vous le disiez vous-même, hein, depuis l'Antiquité, on voit cette conception abolitionniste exprimée par des philosophes. Et c'est vrai que ces dernières décennies, c'est une préoccupation qui est de plus en plus visible dans la société.
Entre temps, il y a l'élevage intensif qui a pris cette ampleur qui n'avait jamais existé avant.
Tout à fait, mais vous savez qu'un abolitionniste sera aussi bien opposé à l'élevage intensif qu'à l'élevage extensif. Par exemple, moi, je considère qu'une vache qu'on tue, c'est un meurtre, qu'elle soit dans un élevage intensif ou dans un élevage extensif. Après, la question de savoir donc si l'abolitionnisme va arriver dans un futur proche dans l'humanité, on peut en douter fortement, étant donné malheureusement la situation dans laquelle on est. Je répète les chiffres, 3 millions d'animaux tués tous les jours en France, c'est 50 milliards à l'échelle mondiale, et je parle même pas des poissons qui... On est en train de vider les océans, tout simplement, vider les océans. Je suis pas en train de parler des poissons comme une simple... entre guillemets, ressources halieutiques, mais ce sont des êtres conscients et sensibles aussi. Mais vous voyez, c'est un vaste massacre qui est même au-delà de notre capacité d'imagination, parce que ce sont des chiffres tellement importants qu'on peut même pas se les représenter.
Alors effectivement, dans cette idéologie abolitionniste, il y a cette fin de l'élevage, qu'il soit extensif ou intensif, mais qui pose un certain nombre de questions, et notamment celle de ce qu'on ferait de ces milliards d'animaux d'élevage si on ne les destinait plus à l'abattoir, Georges Chapoutier.
Alors, d'abord, il n'existerait plus. Si on les produisait pas, si on les faisait pas naître.
Dans un premier temps, ils existeraient encore.
Si on les fait pas naître pour les abattre, à terme, ils n'existeraient pas. Ils ne verraient pas le jour. Alors la question qu'on peut poser, c'est s'ils ne voient pas le jour, est-ce qu'on risque pas qu'il y ait des races, etc., traditionnelles qui disparaissent? Alors ça c'est un risque, et il est pas nul, mais il est pas nouveau. Dès que l'homme abandonne l'utilisation d'un animal pour quelque chose, l'animal tend à disparaître. Je parle des races domestiques. Hein. Le baudet du Poitou, qui est un magnifique animal, on l'utilise plus et on a beaucoup de mal à le garder. Donc ça, c'est sûr qu'il y a un risque de disparition de certaines races traditionnelles, qu'il faudra compenser par des conservatoires ou des choses comme ça.
Je vais reciter à nouveau Jocelyne Porcher qui propose plutôt de réhabiliter un élevage respectueux des animaux, comme on le disait, une position qui se rapproche de la position dite welfariste, donc qui consiste à tenter dans un premier temps d'améliorer le sort des animaux, mais contrairement à ce que promeut Jocelyne Porcher, pour les welfaristes, il ne s'agit là que d'une transition. C'est bien cela, David Chauvet.
C'est-à-dire pour les abolitionnistes welfaristes comme moi, c'est-à-dire des gens qui veulent à la fois l'abolition de tout esclavage animal et qu'on améliore dans le temps présent, qu'on soulage les animaux des abominations qu'ils subissent. On a ce point commun, si vous voulez, avec Jocelyne Porcher, mais elle, moi je ne suis pas dans la contradiction. Déjà, j'annonce les choses telles que je les conçois. Mais Jocelyne Porcher, qui est prise, si vous voulez, au piège de son anti-abolitionniste, elle refuse absolument toute idée d'abolition parce qu'elle veut préserver l'élevage. C'est quelque chose qui lui importe beaucoup. Et pour préserver l'élevage, elle s'oppose aux véganes. Elle veut pas que les gens, que le véganisme se développe au point tel qu'on pourrait, comme je le disais tout à l'heure, diminuer l'élevage suffisamment, le nombre d'animaux suffisamment tués pour que son élevage puisse se concrétiser.
Non, à côté des abolitionnistes ou welfaristes comme David Chauvet, il y a un certain nombre de welfaristes non négligeables qui sont partisans de continuer à manger des animaux, qui disent en substance, je caricature leurs propos, nous sommes formés comme omnivores, nous avons des enzymes, des dents, ça qui nous permet de manger de la viande, donc il n'y a pas raison de ne pas le faire, mais c'est là où le point moral intervient, c'est à ce moment-là, élevons et tuons nos animaux dans des conditions parfaitement décentes.
Au cœur de l'idéologie welfariste, c'est peut-être cette idée de recréer ce lien entre la production et la consommation, ce lien qui aurait peut-être disparu. Alors, si l'élevage disparaît, quel est le rapport que les hommes devraient entretenir avec les animaux selon les militants animalistes? Écoutons une lecture de Zoopolis, un ouvrage de Sue Donaldson et Will Kimilica, paru en français en 2016 et qui propose d'offrir justement une nouvelle place aux animaux.
Le mouvement de défense des animaux est dans une impasse. Certes, les stratégies mises en place au cours des 180 dernières années, ainsi que les arguments développés pour articuler en un ensemble cohérent les différents problèmes soulevés par la question du bien-être animal et pour mobiliser l'opinion publique en sa faveur, ont rencontré un certain succès, sur certains points tout au moins. Mais il est également apparu de plus en plus clairement que ces stratégies sont limitées, que non seulement elles ne nous permettent pas de répondre aux défis éthiques les plus graves posés par nos relations avec les animaux, mais qu'elles ne nous permettent même pas de les identifier. Notre but est de proposer un nouveau cadre conceptuel accordant à la question animale une place centrale dans la façon dont nous concevons la nature de notre communauté politique, ainsi que les idées de citoyenneté, de justice et de droits de l'homme qui lui sont associés. Nous pensons que ce nouveau cadre ouvre des possibilités nouvelles, tant au niveau conceptuel qu'au niveau politique, et qu'il peut nous aider à surmonter les obstacles qui entravent actuellement tout changement progressif dans notre attitude envers les animaux.
Voilà un extrait diffusé dans Les Chemins de la philosophie sur France Culture. Alors, on l'entend, avant d'en venir à des questions de droit des animaux, de citoyenneté, le livre de Sue Donaldson et Will Kimlicka part d'un constat d'échec.
David Chauvin. Le constat d'échec, c'est celui que je vous ai dressé tout à l'heure. 3 millions d'animaux tués tous les jours en France. En fait, moi personnellement, enfin, comment dire ? Bon, je suis antispéciste, c'est-à-dire je considère que les animaux et les humains, à intérêt comparable, doivent avoir des droits comparables. Donc j'ai une considération des animaux, vous voyez, c'est-à-dire que
c'est
vois l'animal...
qu'il n'y a pas de différence de nature entre les espèces, mais une différence de degré.
Voilà, si vous n'avez pas envie de vous faire couper la main, un animal n'a pas envie de se faire couper la patte. Il y a une égalité, si vous voulez, d'intérêt, il devrait y avoir donc une égalité de droits. Quand vous avez compris ça, moi je vous dis, je vois 3 millions d'animaux par jour. Alors imaginez 3 millions d'humains par jour massacré et dites-vous si le mouvement pour les droits humains a réussi. Vous voyez, donc c'est dans ce contexte-là qu'on parle de viande in vitro et ce genre de choses. Et à ces questions-là s'ajoute l'impact environnemental qui représente une menace grave, extrêmement majeure pour l'avenir de l'humanité et d'ailleurs pour l'avenir aussi des autres espèces qui sont concernées aussi, bien sûr, par la destruction de la
bien
planète.
Bien sûr, Georges Chapoutier.
Je voudrais insister sur ce point-là, sur le désastre que souligné par Zoopolis de notre relation avec l'animal, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi un désastre de notre relation avec les humains. L'espèce humaine est une espèce brillante sur un plan scientifique et technologique, Homo sapiens, on s'est intitulé, mais sur le plan moral, on n'est pas brillant du tout. Quand on regarde notre histoire, c'est une suite de guerres, d'atrocités, etc., etc., etc.
Alors là, vous nous emmenez bien loin. Voilà.
Oui, il n'y a pas que vis-à-vis de l'animal que nous sommes une espèce cruelle et abominable. C'est aussi vis-à-vis de nos semblables. Et je suis de ceux qui pensent que si on donne une morale unique, si on améliorait nos relations avec les animaux, probablement, ça rejaillirait aussi sur nos relations avec les humains.
David Chauvin.
Pour rebondir sur votre propos, qui est tout à fait juste, Oui, je parle de meurtre d'animaux, d'esclavage des animaux, on va dire que je suis un extrémiste. Donc l'extrémiste, c'est celui qui veut qu'on soit en paix avec les animaux. Et celui qui est modéré, c'est celui qui envoie 3 millions d'animaux dans les abattoirs tous les jours.
Ah, il y a aussi les gens qui estiment qu'il faut manger moins d'animaux, moins de viande et permettre, comme on le disait, un élevage qui s'intéresse, qui se base plus sur le local. Il n'y a pas que les deux positions extrêmes que vous nous proposez.
Non, mais à la fin, l'animal il passera sous le couteau du boucher. Alors ça, c'est paisible. Ça, c'est modéré. Si c'est si modéré que ça, allez-y. Prenez vous-même l'animal, égorgez-le et puis vous verrez si c'est un acte anodin.
Les philosophes de l'Antiquité l'avaient déjà écrit, ça.
Voilà.
Je crois que Porphyre avait écrit comme ça. Si vraiment vous voulez être carné, allez tuer votre animal vous-même.
Alors ce ne sera pas un acte de courage, c'est seulement vous serez devenu une brute. Une brute épaisse.
C'est l'argument, coupé, effectivement, entre l'animal et la viande. Et ça pose beaucoup de questions, en effet. Après, est-ce qu'on va demander à chacun d'aller assassiner à lui-même son poulet ? C'est encore un autre sujet. Mais revenons à notre sujet d'aujourd'hui, qui sont notamment les droits des animaux. Alors, ce que proposent les deux chercheurs canadiens, c'est d'offrir plus de droits aux animaux en vertu de leur personnalité et de leur identité individuelle. Alors ça, de quelle façon est-ce que c'est possible sur le plan juridique, David Chauvet ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Une personnalité juridique, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Je vous rappelle que les associations, les personnes, les sociétés commerciales sont des personnes. Donc si on veut donner la personnalité juridique aux animaux, on peut parfaitement le faire. C'est qu'une question purement politique. Il n'y a aucun obstacle juridique conceptuel à l'attribution d'une personnalité aux animaux. Évidemment, le fait d'attribuer une personnalité aux animaux, c'est pareil. C'est une façon de dire ah bah attendez, les animaux vont être sur le même plan que les humains et la dignité humaine dans tout ça. Ne sommes-nous pas au sommet d'une hiérarchie, trônant fièrement et avec les animaux en bas ? Voilà, c'est ça la question. C'est une question symbolique avant tout, une question de, je dirais, de perception de notre place au sein du cosmos.
Oui, deux remarques là-dessus. On est des sociétés de droit, si vous voulez. Et donc, si on veut faire respecter les animaux, il faut leur donner des droits. Pour que même ceux qui n'aiment pas les animaux ne fassent pas avec eux n'importe quoi. En d'autres termes, il faut des garanties juridiques. Bon. Ceci dit, quel droit et surtout, on ne peut pas considérer tous les animaux de la même manière. On a beaucoup parlé ici des animaux céphalisés, qui ont une individualité, donc une personnalité. Donc là, on peut définir, comme l'a dit David Chauvet, éventuellement une personnalité juridique, garantie par des associations qui se porteraient en leur faveur. Mais pour les animaux, certains invertébrés, par exemple une fourmilière, qu'est-ce qui va avoir la personnalité ? Est-ce que la fourmi et la fourmilière, dès qu'on touche, qu'on quitte les animaux vertébrés, ça pose beaucoup de problèmes.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission. J'aimerais savoir dans quelle mesure les idées du philosophe Peter Singer ont joué un rôle important dans la formation du mouvement de libération animale à partir des années 70 et dans l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui l'antispécisme, David Chauvet.
Ouais, il y a un rôle historique indéniable de la libération animale de Peter Singer ou d'autres philosophes, hein, mais bien sûr on ne va pas le réduire à ça. Il y a des associations comme PETA qui étaient déjà présentes à l'époque. Il y a même eu certains philosophes qui ont écrit des livres qui ont inspiré Peter Singer au même moment que Peter Singer, mais on a aussi Henri Salt le siècle précédent, et voilà, donc on a globalement un mouvement qui est bien installé, qui est bien structuré, avec aussi bien intellectuellement que dans le secteur associatif. Le seul problème maintenant du mouvement de défense des droits des animaux, c'est le politique. On a, si vous voulez, regardez tous les sondages, vous en avez trois pages qui vous montrent que les humains, en général, sont plutôt sensibles à la cause animale et donc nos concitoyens sont plutôt favorables à toutes les évolutions positives qu'il peut y avoir en la matière. Mais qui bloque à chaque fois, c'est nos politiciens.
Pour conclure, quelle est votre vision, l'un et l'autre, de l'avenir des relations entre les hommes et les animaux? Quelle devrait-elle être, selon vous,
Jean Chapoutier? Moi, je suis a priori plutôt optimiste, mais je pense que ça sera extrêmement long. Je ne crois pas à des révolutions. Déjà, en 50 ans, dans un pays relativement stable comme la France, les choses ont évolué, il y a eu des progrès, et encore beaucoup de choses qui manquent, on en a discuté suffisamment aujourd'hui. Donc je pense que l'évolution, elle sera très lente, et elle suppose finalement d'éducation des générations successives et un changement petit à petit des mentalités de l'homme, et ça ne se fait pas en un jour.
Cela passera en grande partie par la pédagogie, David Chauvet.
Oui, mais je voudrais quand même préciser que maintenant, peut-être la prise de conscience qu'il faut avoir, c'est que la question de la viande est intimement liée à la question du climat. Donc là, il n'y a plus de temps. Et au-delà de la question de l'antispécisme, des droits des animaux, etc., la question de la consommation de viande doit se poser au même niveau que les autres sources d'émissions de gaz à effet de serre, comme les transports.
On pourra, en tout cas, j'incite les auditeurs à écouter nos quatre émissions consacrées à la viande. Lundi, on est revenu sur l'histoire de la consommation de viande. Mardi, on a parlé davantage de l'industrie de la viande. Et hier, on est revenu véritablement sur les abattoirs et sur les conditions de mise à mort des animaux. Et j'invite vraiment les auditeurs à écouter cette série. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur une étude américaine affirmant que la seule manière de manger du bœuf soutenable, c'est d'en manger moins.
Mais oui, une énième étude qui pointe le coût écologique de l'agro-industrie et de l'élevage intensif. Nous avons d'ailleurs pu parler tout au long de la semaine, mais l'intérêt de ce rapport publié l'année dernière dans la revue Nature, Ecology and Evolution par une équipe de chercheurs américains et israéliens, c'est qu'elle donne un ordre de grandeur des changements nécessaires pour aller vers un élevage durable. Il rappelle ainsi le poids que fait peser l'élevage industriel sur l'environnement, la surexploitation des terres, la consommation d'eau. 13 500 litres d'eau sont ainsi utilisés pour produire 1 kg de viande de bœuf, mais aussi les pollutions aux nitrates ou encore les rejets de gaz à effet de serre dus aux 94 millions de têtes de bétail aux États-Unis.
Les chercheurs ont ainsi présenté également un scénario pour réduire considérablement cet impact.
Exactement. Selon Gideon Eschel, chercheur en sciences de l'environnement à Harvard, il est possible d'aller vers une production de bœuf durable et il faudrait pour cela que les animaux ne mangent que des ressources non utilisables pour l'alimentation humaine. En clair, l'herbe des pâturages et les sous-produits de l'industrie alimentaire, tels que les restes de céréales après distillation ou la pulpe issue de la transformation de la betterave sucrière. À partir des quantités de ressources disponibles, l'équipe de chercheurs en a déduit qu'il faudrait nécessairement réduire la production bovine à 45% de sa production actuelle. Les terres libérées par cette baisse de l'exploitation animale, soit 32 millions d'hectares de terres de haute qualité, pourraient alors être utilisées pour produire des alternatives à l'alimentation. l'alimentation carnée.
Selon les scientifiques, ce changement serait bénéfique non seulement d'un point de vue écologique, mais aussi nutritionnel.
Mais oui, et ce, quelles que soient les cultures de substitution choisies parmi les 14 étudiées. Comme l'explique un article du Monde consacré à cette étude, l'apport en protéines pour les humains serait ainsi 2 à 24 fois supérieur à celui du bœuf et l'apport en calories 2 à 16 fois plus élevé. Ces produits sont également plus riches en fibres, en vitamines et en minéraux. L'étude prend ainsi l'exemple d'une réaffectation des terres de production bovine à la culture de haricots rouges, qui permettrait de multiplier par 10 l'apport protéique tout en limitant de 90% les émissions de gaz à effet de serre et de 50% les pollutions en azote des sols. En clair, mieux vaut les haricots que le veau. Mais face à cet impératif de réduire drastiquement notre production de viande, les auteurs affirment qu'un simple changement des pratiques de consommation ne suffira pas. Ils pointent surtout la toute-puissance des acteurs de transformation de la viande comme JB ou Cargill, qui contrôlent 85% du marché américain et dictent les prix aux producteurs.
C'est donc à l'État américain d'intervenir, Arjuna.
Oui, absolument. L'État doit intervenir pour intégrer au prix de l'agro-industrie les coûts sanitaires et environnementaux. Cela passe ainsi par un arrêt des financements publics accordés à l'agro-business. Cela doit aussi se traduire par un soutien aux exploitations de moindre taille, plus respectueuses du bien-être des bêtes. Mais ce qui est intéressant avec ce rapport, au-delà de sa dimension pratique, c'est qu'il propose un retour à un régime plus équilibré, meilleur pour notre santé, assez proche en réalité de l'alimentation de nos premiers ancêtres. Ainsi, selon la préhistorienne Marilyn Patoumatis, l'alimentation de l'Homo erectus et des premiers hommes modernes était beaucoup plus diversifiée que la nôtre. C'est sa migration vers l'Europe glaciaire, où les végétaux étaient rares et la plupart, baies ou graminées sauvages, contenaient relativement peu de protéines qui l'ont conduit à consommer plus de viande. D'autres peuples, comme les Bushmen de Kalahari, continuent quant à eux à manger beaucoup de fruits riches en protéines, comme les noix ou les fèves. Et si, dès lors, revenir à une alimentation plus équilibrée, mais aussi plus saine et meilleure pour la planète, était une manière de nous retrouver nous-mêmes.
Merci beaucoup, Arjuna Andrade. On peut retrouver les nouvelles de l'écho sur franceculture.fr et en podcast.
The sky, zip your lip until you've picked a side. You get right up and sit back down. A revolution is one spin round. You get back up and sit right down. A revolution is one spin, all for one.
Domesticated Animals de The Queen of the Stone Age. Merci beaucoup Georges Chapoutier et David Chauvet de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle vos livres respectifs. Georges Chapoutier, L'homme, l'animal et la machine, perpétuelle redéfinition. C'était... Pardon ? En collaboration avec Frédéric Kaplan et également donc, publié aux éditions du CNRS. Et David Chauvet, Une raison de lutter, l'avenir politique et philosophique de la viande. C'était aux éditions L'Âge d'Homme.